C'est l'état d'urgence.
J'ai envie de vomir.
Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
Il y a quand même beaucoup d'interdictions de manifestations, hein.
L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République.
Tout ça avec l'appui de la presse. Et c'est aussi ce que j'ai envie de gérer.
La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants.
Les personnes, elles se préparent à ce que dans la nuit, ils viennent défoncer leurs portes, même s'il n'y a rien chez eux.
Ce bazar est parti pour durer.
C'est l'état d'urgence.
Salut à vous.
Salut chez vous. C'est le Front du Lundi avec, comme vous l'avez, vous avez pu l'entendre, un nouveau générique. Voilà, on est passé de la musique au blabla, mais c'est parce que on est une émission de blabla aussi, non ?
Eh oui, tout à fait. Et alors, on est le lundi 4 janvier, ouais. On est le 52e jour de l'état d'urgence.
Pas mal.
Et bonne année. Ça démarre pas très bien, mais on va essayer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu du Front du Lundi ?
Dis-nous.
On va parler barrage, on va parler testet, avec notamment la rediffusion d'un docu... sur les problématiques agricoles autour du barrage de Sivens, la rediffusion d'un docu « C'est ici que » qui nous vient de la web radio Vogel les Mouettes et qu'on a diffusé fin 2014 sur ces mêmes ondes. Voilà. Et avant ça, on reçoit Bernard Viguier, ancien avocat, qui vient du coup nous faire un petit peu un point.
On va dire une explication de texte par rapport aux derniers événements concernant le barrage de Sivens, c'est-à-dire notamment l'abrogation de plusieurs arrêtés qui concernaient la construction de ce fameux barrage. Alors, est-ce que c'est la victoire, hein, là, ça y est, c'est gagné, etc. Ou alors pas du tout, ou c'est de l'enfumage comme d'habitude. Bernard Viguier nous expliquera tout cela dans quelques petites minutes.
La réponse dans quelques instants. Mais d'abord... les meilleurs vœux d'Eric.
Voilà. Donc on reste un peu sur cette musique, un peu ce petit coup là de Charlet là derrière. Donc ben, vous l'avez vu, hein, on a changé d'année, mais voilà, la gueule de bois persiste et le cauchemar continue toujours de plus belle. Surtout que maintenant c'est la dèche totale, surtout depuis que François Hollande, vous savez là, ce président qui se dit socialiste et pour lequel pas mal de gens ont voté aux dernières régionales ou en tout cas ont essayé de pousser des gens qui ne voulaient pas voter à voter pour ce type-là. Enfin bon, bref. Donc ce type-là, François Hollande, a confirmé le 31 décembre 2015 sa volonté d'étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés français condamnés définitivement pour crimes terroristes et non plus seulement à ceux qui ont acquis cette nationalité après leur naissance. En gros, tout français de souche maintenant, accusé de terrorisme, on sait que le terme terrorisme peut être vague et varié, peut un jour ou l'autre se retrouver à la porte, avec une main devant et une main derrière, comme dirait l'autre. Et sinon, ça va, hein, depuis le 13 novembre, les manifestations sont interdites et les rassemblements à peine tolérés. Au rayon des nouvelles, une bonne nouvelle, la délation a fait son grand retour. La preuve avec le premier cas d'un individu dont l'assignation à résidence a été levée. Il s'appelle Zinedine, son histoire est rapportée sur le site du Monde, dénoncée à tort par un ancien collègue de travail avec qui les relations étaient mauvaises. Il avait été assigné à résidence, donc le ministère a levé son assignation, mais durant quand même 3 semaines, Zinedine a dû pointer au commissariat 2 fois par jour et rester à son domicile de 21h30 à 7h30 et a failli même perdre son emploi. Combien d'assignés à résidence sont dans ce cas ? Parce que sur une simple délation aux autorités, il est possible de priver un individu de ses libertés les plus élémentaires. Bonne année, hein, sinon, hein, bonne santé aussi. Et toujours depuis le 13 novembre, on en est aujourd'hui à 2764 perquisitions administratives, ordonnées par un préfet et non par un juge. C'est toujours la petite nouveauté qui fait plaisir et qui est bonne de rappeler. 422 infractions constatées, 294 gardes à vue, mais aucune, je dis bien aucune, n'est en lien avec le terrorisme et aucune filière djihadiste n'a été à ce jour démantelée. On tape large, couine les flics, hein, c'est vrai, ce qui signifie aussi quand on dit on tape large, ça veut dire que rarement on tape juste, mais bon. Faut dire que la tentation est tellement grande de mettre à profit l'état d'urgence pour assurer l'ordre social que les exemples ne manquent pas. Manifestations interdites de façon arbitraire, garde à vue et interpellations injustifiées, sans parler du comportement violent des forces de l'ordre. On vous rappelle, on avait parlé ici que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, avait appelé ses troupes à un peu de retenue. Retenez-moi, vous savez, ou sinon je fais un malheur. Au rayon des embellis, si on peut dire, les 391 assignations à résidence recensées à ce jour, ordonnées donc depuis le 13 novembre 2015, sont susceptibles d'être frappées d'illégalité. C'est Le Monde qui nous raconte ça. À en croire l'ordonnance du tribunal administratif de Pau, rendue mercredi 30 décembre 2015, le ministère de l'Intérieur risque d'être confronté à un sérieux petit problème. Saisi en référé par un jeune boulanger de 21 ans assigné à résidence, le juge administratif de Pau a constaté que l'arrêté du ministère de l'Intérieur ne comporte, je cite, aucune précision formelle, conditionnelle ou implicite quant à son application dans le temps. Et pour cause, tous les arrêtés d'assignation à résidence sont bâtis sur un même modèle, avec le même article premier. À compter de la notification du présent arrêté, monsieur machin chose, mademoiselle Struc, est astreint à résidence sur le territoire de la commune de Mouchetruc. Seules les quelques assignations décidées à l'encontre d'activistes pendant la COP21 comportaient une date de fin. Pour les autres, ben non. Le tribunal administratif de Pau souligne qu'être informé dès la notification d'une mesure portant restriction de la liberté d'aller et venir, ouais, c'est pas rien, de la durée pendant laquelle cette mesure est susceptible d'être mise en œuvre, est un droit. Ah bon ? Ne serait-ce que pour que cette durée puisse, le cas échéant, être utilement discuté devant le juge administratif. Bon, jusqu'à maintenant, les juges administratifs n'en ont un peu rien à faire, mais bon, là, ça y est, ils ont l'air partis. Donc, il est admis que les assignations à résidence décidées dans le cadre de cet état d'urgence prennent fin, donc, normalement, le 26 février, c'est-à-dire la date de la fin de l'état d'urgence. Sauf que ça, en fait, ce n'est écrit nulle part, et que les gens qui ont été assignés à résidence le sont visiblement ad vitam aeternam. Voilà, donc on sent bien qu'on va avoir une année de merde, qu'entre délation, notes blanches, flics revanchards, portes défoncées au petit matin, déchéance de nationalité aussi, c'est clair, en 2016, on va être encore de la baise.
Ne testez pas nos limites, on sauvera la zone humide. Même si les machines vont trop vite, rien ne te rendra aride. Testez, on va saboter leur projet de saccager. De béton et tes contrées pour augmenter ta productivité. Testez, terre de test sur laquelle on sème se déteste. Sur laquelle on sème les graines d'une rengaine qui se répète. Ça fait zad partout, zad partout, zad partout, zad partout. Encore zad partout, zad partout. Non, ces gens-là ne sont pas fous, ils sont comme vous. Mais se mobilisent en masse pour éviter et les impasses et laisser respirer terre mère pour la santé de nos petits frères. Car ça parle de démocratie, mais une minorité décide. Réapproprions-nous nos voix, nos vies pour contrer l'écocide. Avides d'argent, ils le sont assurément, des bouts des gens. Pour engraisser les méchants, restons méfiants. Et ne baissons pas les bras, restez vivants. Ne cessons pas le combat, ne cessons pas le combat, ne cessons pas le combat. Testez, testez, ne cessons pas le combat. Testez, testez, ne testons pas le combat. Testez, testez, ne testez pas le combat. Testez, 2014, l'Occident fait la névrose. La connerie humaine s'impose, c'est des crimes en surface. Un bâton dans la main gauche, un stylo dans la main droite. Une arme blanche qui écorche, une terre commune que l'on squatte. Des paysans que l'on exploite, expulsés, justice maladroite. Du maïs au gemme en boîte, et des mâchoires que l'on déboîte. Des CRS qui sert les fesses quand on leur pose des questions têtes. Genre qu'en pensent tes enfants, à quel niveau tu leur mens en leur disant qu'une zone humide tu défends. Laisse-moi rire à toutes dents, car avec ton armement tu ne défends que les intérêts du poignet d'agriculteurs déjà blindés. Gendarmes sur la ZAD, nos enfants ont le même âge, pourquoi défendre tâche, une page de mon cahier pour la plier, laisser rouler l'avion papier et révéler la subtilité de ce message. Face à tes bottes qui nous écrasent et saccagent notre terre dans cette forêt que l'on rase, je m'efface, me retire, loin des coups, loin des tirs, des flashballs qui empirent un corps qui s'aime une fois souffrir. Je m'efface, me retire, loin des coups, loin des tirs, des flashballs qui empirent un corps qui s'aime une fois souffrir. Ils cultivent notre haine, ils entretiennent nos peines, et malgré tous nos soupirs, continuent nous anéantir, écœurés. J'aimerais gerber et crever, sans gerbe déposée ni tombe creusée, écœurés. J'aimerais gerber et crever, sans gerbe déposée ni tombe creusée, pas de cimetière pour les arbres. Leur destruction en masse accable et nous condamne, pas de cimetière pour les arbres. Leur destruction en masse macabre, macabre.
Le 24 décembre 2015, on a appris une nouvelle. Alors, je ne sais pas si elle est bonne, justement, on va en discuter. Le préfet du Tarn a abrogé l'arrêté interdépartemental du 3 octobre 2013, portant autorisation au titre des articles machin chose et trucs bidule chouette du Code de l'environnement, et déclarant d'intérêt général le projet de la réalisation de la retenue de Sivens et portant prescription relative à la sécurité de la retenue de Sivens. Donc, en fait, il n'y avait rien de nouveau puisque cette abrogation figurait dans un protocole transactionnel validé le 11 décembre par le Conseil départemental. Ce protocole, hein, validé par le Conseil départemental, disait que grosso modo, en échange de 2 millions d'euros immédiatement versés par l'État et 2,3 millions d'euros versés bientôt, hein, un peu plus tard, pour le département, à condition que, ben, que cet arrêté soit abrogé et que le département renonce à tout recours contre l'État. Donc voilà, ça veut dire que le barrage, est-ce que ça veut dire que le barrage de Sivens en l'état, enfin dans l'état tel qu'on l'a, on nous l'a présenté ces dernières années, n'existe plus? On va poser la question à Bernard Viguier, qui est avec nous, ancien avocat, qui a ferraillé sur l'histoire du barrage de Fourocq, dans le Tarn aussi, et qui s'intéressait et qui s'est même retroussé les manches sur l'histoire de Sivens. Alors, est-ce que cet accord, est-ce que déjà cette abrogation est une bonne nouvelle ou elle est plutôt la conséquence, comme tu le disais dans un de tes blogs, d'un accord mafieux passé entre l'État, le Conseil général et enfin départemental et la CACG?
Oui, alors je ne dirais pas que l'abrogation est une mauvaise nouvelle, mais ce que je pense, c'est que cette abrogation, elle était nécessaire pour régler le problème des entreprises qui avaient travaillé sur le site. Comme le barrage a été arrêté après la mort de Rémi Fraisse, et comme dès la mort de Rémi Fraisse, les juristes de l'État et moi-même, nous avons pu constater que les arrêtés qui avaient autorisé le barrage étaient illégaux, et Ségolène Royal avait commencé à faire des déclarations laissant entendre qu'il y avait une erreur d'appréciation. Bon, elle était manifeste pour moi, mais elle le disait en termes polis au départ. Et puis en janvier-février, elle a laissé entendre clairement que le barrage était illégal. Comme ce barrage était illégal, il fallait absolument régler le problème financier avant que ces arrêtés soient annulés. Pour une raison simple. Que j'expliquais dès le 3 novembre dans un article sur le site des Bouilles. Si les arrêtés sont abrogés, ça veut dire qu'ils existent avant la date d'abrogation. S'ils sont annulés, ou annulés par le juge, ou retirés, mais ça c'était impossible, comme je l'expliquais dans un article à l'époque, par l'État, s'ils sont annulés, ça veut dire qu'ils n'ont jamais existé. Ça veut dire que tous ces travaux qui ont été faits n'avaient aucune existence légale, ne s'appuyaient sur rien. Donc, pour régler le problème financier qui existait, dès lors qu'on savait que le barrage était illégal, on le savait clairement depuis que le rapport Forêt était sorti au lendemain de la mort de Rémi Fraisse. Ouais, et on le savait encore plus au mois de novembre, quand la Commission européenne avait dit que le barrage ne respectait pas la loi sur l'eau, dans un document très circonstancié. Donc, on savait que ce barrage était illégal. Donc, il y avait un litige énorme financier entre les parties qui étaient sur le coup, à régler. Pour le régler, il fallait absolument abroger. Abroger les autorisations, notamment la déclaration d'intérêt général, parce que c'est elle qui permet le barrage. Quand on fait un projet de ce type, il y a deux arrêtés fondamentaux à la base de tout. C'est la déclaration d'utilité publique, c'est celle qui permet le projet dans son ensemble, et puis il y a la déclaration d'intérêt général, loi sur l'eau, qui permet techniquement la réalisation de ce barrage. C'est celle-là qui permet à la CACG de faire les travaux. Donc c'est celle-là qu'il fallait abroger. D'ailleurs, l'État n'a abrogé que celle-là.
Oui, hein, tout à fait. Oui, tout
À ce jour...
C'est-à-dire que la déclaration d'utilité publique, elle, qui est toujours maintenue, et c'est-à-dire aussi qu'elle peut servir pour faire un autre barrage.
Elle pourrait, en théorie. Sauf que les procédures qui avaient été lancées en annulation à l'époque par collectif testé, hein, sont toujours en cours. Mmh. Et dans ces procédures... comme nous avons vu au comité Sivens, qui est une association qui avait été montée au départ pour empêcher la destruction de la métairie neuve, nous avons vu que ces procédures traînaient, nous sommes intervenus dans ces procédures, nous avons versé les documents qui n'étaient pas versés depuis plusieurs mois, et dans ces procédures, les procédures qui sont toujours en cours, je viens d'apprendre, puisque je suis parti maintenant à l'instance comme intervenant, que le collectif testé venait de déposer un mémoire complémentaire que nous demandions depuis un an pour faire annuler la déclaration d'utilité publique. Alors, je peux dire ici, sans crainte de m'avancer, hein, qu'à mon avis, la déclaration d'utilité publique va être annulée dans les mois qui suivent. Mmh. Et il se trouve que le collectif testé n'a pas encore déposé de mémoire pour la déclaration d'intérêt général, mais il faut absolument, comme je vais le leur dire, je l'ai déjà dit à BNFT sur son site, il faut qu'il maintienne sa demande d'annulation de la déclaration d'intérêt général qui permet le barrage. Pourquoi ? Parce que quand une décision est abrogée, en principe, on ne peut pas l'annuler, sauf dans un cas. C'est s'il y a eu commencement d'exécution de la décision, c'est-à-dire si des travaux ont été réalisés.
C'est le cas.
Or là, on est en plein dans ce cas. La décision a été abrogée, d'accord, mais des travaux ont été réalisés avant. Donc, on peut toujours la faire annuler pour faire juger que tous ces travaux étaient illégaux. C'est ce sur quoi il faut se battre. J'espère que Collectif Testé, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Je leur fais confiance pour le faire dans les jours qui viennent.
C'est-à-dire trouver les vrais responsables de ces travaux, voilà, et démêler les fils de la pelote entre qui a fait quoi, entre le Conseil général, voilà, la CACG, tout ça.
Voilà.
Une question, pourquoi c'est un peu, enfin, c'est ce que tu mets, quoi, hein. Toi, tu parles de compromission, de trahison avec cette histoire d'abrogation, parce que effectivement, c'est bien là que le collectif testé ait donc déposé une demande en annulation donc de la déclaration d'utilité publique. Mais ce qui coince un petit peu ou qui fait rire jaune, c'est que ça tombe le 26 décembre, donc deux jours après l'abrogation. Et pourquoi ne pas avoir lancer la machine avant, si ce n'est pour faire plaisir en fait à tout ce petit monde. Là, ça fait quand même un petit peu téléphoner, quoi, enfin, c'est-à-dire que l'État, le département, la CACG règlent leur petit business avec les histoires d'indemnité avant, on garde la tête haute, pas de recours contre l'État. On fait plaisir aux agriculteurs aussi, puisqu'on laisse la porte ouverte avec la DUP à un éventuel prochain barrage, et les opposants qui jouent leur rôle d'opposants, mais gentiment, parce qu'ils auraient pu quand même le faire avant aussi.
Oui, bien sûr. C'est le gros litige qu'on a eu en novembre-décembre.
Ouais, je me souviens.
En novembre-décembre, j'étais partisan de porter le fer en justice, comme je disais, pour faire suspendre et annuler les deux arrêtés qui ont permis le barrage. Et comme on sait aujourd'hui que ces arrêtés étaient totalement infondés, puisque c'est reconnu expressément par le département et par l'État, dans des documents publics, parce qu'avant l'État disait que c'était illégal, laissait entendre par des formules risque élevé d'annulation, hein. Bon, enfin, ça veut dire que c'était illégal, mais enfin, des formules polies. Mais depuis le 11 décembre et la signature de ce contrat, le département lui-même a 6 abstentions seulement, hein, 6 contre ou abstentions. Donc les conseillers départementaux ont signé un document dans lequel ils reconnaissent que le barrage est illégal, dans ce document. C'est-à-dire que la thèse que je défendais, moi, au mois de novembre, selon laquelle c'était illégal et qu'il fallait attaquer, on m'a dit oui, il y a un risque de perdre, etc. Non, il fallait attaquer. Si on avait attaqué en référé à l'époque, on aurait fait annuler depuis longtemps toutes ces décisions. Et ce qui fait que l'arrangement qui vient d'être trouvé aurait été rendu très difficile, voire impossible, comme je l'explique dans le dernier texte que j'ai fait sur Mediapart. Si les décisions avaient été annulées, c'était très difficile de s'appuyer sur quelque chose. Parce que pour payer quelque chose, il faut qu'il y ait des actes qui justifient le paiement. Or, si rien ne justifie les travaux qui ont été faits, comment on peut faire? Il n'y a que le juge qui peut trancher pour les questions d'indemnité. Or là, ils se sont entendus entre eux. C'est pour ça que j'ai mis en chambrant un peu sur mon article que c'était un accord mafieux. Bon, je le maintiens, hein, le titre de mon article. Bon, c'est vrai que j'ai un peu chambré, mais je maintiens que c'est un accord mafieux. Il a été fait dans un cadre qui permettait de le faire. Entre des gens, je rappelle quand même que ces deux personnes, le préfet Gentilhomme et Thierry Carcenac, ont plusieurs plaintes sur le dos de plusieurs membres du comité Civens. Ils sont mis en cause dans plusieurs délits sur l'affaire de la destruction de la métairie neuve, et ce sont ces gens-là qui ont été les chevilles ouvrières de cet accord sur les 3,3 millions d'euros. Des gens qui sont actuellement, et que j'espère bientôt faire condamner par la justice. Ils ont fait cet accord, c'est pour ça que je dis aussi que c'est un accord mafieux. Un accord mafieux en fonction de ce qui s'est passé, et en fonction des gens qui ont calculé cet accord.
Sans compter la responsabilité que le préfet Gentilhomme et que Carcenac portent également sur la mort de, par rapport à la mort de Rémi Fraisse et rapport à toutes les bavures et qui ont eu lieu pendant ces un an et demi là, quand on durait un petit peu là, les échauffourées sur le barrage de Sivens. Donc on a cette abrogation, on a une attaque là, de la DUP, enfin en tout cas une demande d'annulation devant le tribunal administratif.
Oui, de confirmation de l'annulation, voilà. Parce qu'elle existait.
Ouais,
mais gagner cette affaire, il fallait absolument faire ce qu'on appelle la mémoire complémentaire et se servir des documents qu'on avait. Par exemple, les rapports forêts, puisqu'il y en a deux. Il y en a un qui a été rendu le 27 octobre et un autre qui a été rendu en janvier, qui est encore plus critique que le premier. Sauf que le second, il est rentré beaucoup plus dans les détails. Les experts sont allés voir à droite, à gauche, les agriculteurs, etc. Donc il est beaucoup plus précis et il est encore plus critique que le premier.
Tout à fait. Ah. Du coup, qu'est-ce qu'il en est de ce barrage? Est-ce qu'il va falloir tout reprendre à zéro, surtout si la DUP se retrouve à la poubelle? Est-ce qu'il va falloir... parce qu'on parle aujourd'hui de calmer le jeu avec cette abrogation pour repartir, et c'est ce qu'on nous serine depuis un petit moment, sur un barrage beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'il ferait la moitié de la capacité de celui qui aurait dû se faire sur Sivens, c'est-à-dire 750 000 m3 d'eau, 300 mètres en amont de celui qui devait être construit sur le site de Sivens. On nous parle également d'un nouveau barrage qui verrait le jour à Bessières. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On va repartir sur combien de 2 ans, 3 ans de procédure de nouveau?
Je ne peux pas entrer dans ces questions. Ce que je sais, c'est que le département, la plupart des agriculteurs, notamment des responsables agricoles et l'État, sont favorables à un Sivens light.
C'est ça, ouais,
bon,
tout à fait.
À mon avis, ils sont partis pour faire un Sivens light. Moi, je ne suis pas... Ben Lefeté dit qu'il va s'y opposer. Bon, ça, c'est son problème. Mais bon, on verra bien. Mais ils sont partis pour faire un Sivens light. Ce Sivens light, évidemment, n'est pas fait. Et loin d'être fait. Hein? Techniquement, juridiquement, même... Parce que je ne crois pas, en ce qui me concerne, je pense que Ben Lefeté et Collectif CC sont partis dans cette discussion depuis la mort de Rémi Fraisse sur ce qu'ils appellent le projet de territoire. Je pense qu'ils se font rouler dans la farine dans cette affaire. Bon, comme beaucoup de gens se sont fait rouler dans la farine par l'administration, dans ce genre d'affaires. On dit, oui, on est gentil, on joue le dialogue, et puis on roule les gens dans la farine. C'est gros comme une maison, pour moi, que l'État, le Conseil général et les agriculteurs... Les dirigeants agricoles, si on en croit certains agriculteurs, par exemple Philippe Jougla, a dit qu'il était maintenant favorable à un Sivens Light.
Tout à fait.
Ouvertement, il l'a dit.
Alors qu'il n'était pas, il y a encore quelques mois.
Ce qui veut dire que le Sivens Light, et j'entends parler d'un référendum, nul doute que si on soumettait à référendum le projet d'un Sivens Light, il serait largement accepté. Nul doute. Bon. Tu me diras, si on soumettait à référendum la déchéance de nationalité, elle serait largement acceptée. Tu me diras, si on soumettait à référendum, pourquoi pas l'abolition de la peine de mort, qu'on y revienne dessus, elle serait largement acceptée. Bon, c'est ça la question. C'est qu'on parle de venir à un référendum. Attention, le référendum projet Hollande.
Le référendum populaire, c'est-à-dire le référendum piège à con. Des gens qui vont voter sans connaître, comme le député de Tarn-et-Garonne qui a fait des déclarations, Bonour, là, comme quoi l'État avait abrogé en catimini un projet qui était... Alors là, je suis d'accord avec Arsenac. Il ne connaît visiblement rien à ce dossier. Il parle, je suis sûr qu'il n'a lu ni le rapport d'enquête, ni les rapports Forêt. Il n'a rien lu, ce type-là, ce député-là.
C'est le sénateur François Bonhomme.
François Bonhomme, ouais, ou Bonour. Ouais. Et il s'insurge contre une magouille, contre un projet qui serait, selon lui, favorable pour les agriculteurs qui ont besoin d'eau, enfin, où on va, là. On va. Voilà. Donc, s'il y a ce référendum, je pense qu'on perdra. Les gens voteront pour le projet de Stevens Light et malheureusement, ça risque fort de finir en eau de boudin.
Ouais, donc on n'a pas fini de parler de ces histoires-là. On te remercie d'être venu, Bernard. Ce fut court, mais bon. Mais on va continuer sur Stevens en revenant sur ce qui s'était passé l'année dernière, puisque ce qu'on va écouter là maintenant pendant une heure, tu me dis si je me plante, Aurélien, on va parler des questions agricoles dans le Tarn et également de la lutte autour du barrage, donc dans sa version fin 2014.
C'est ça, tout à fait. A priori, les enregistrements ont été faits dans la deuxième moitié de l'année 2014.
Ok. Eh bien, on est parti.